Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors dans cette émission, comme tous les jours, il est à mes côtés, mais pour prendre soin de vous, auditeurs d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, on va en finir avec la fatigue. Une émission en partenariat avec le Figaro Santé. Pourquoi sommes-nous fatigués? Comment, en bougeant davantage, en se nourrissant différemment, peut-on se débarrasser de la fatigue? On parlera aussi Covid-19, évidemment, un virus exténuant pour les personnes atteintes comme pour les autres d'ailleurs. Alors pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, deux invités sur notre plateau aujourd'hui, Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, ainsi que le professeur François Autier, neurologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Ensuite c'est vendredi, et le vendredi, place à la beauté dans cette émission avec la chronique de Benjamin Lévesque cet après-midi. Il a décidé d'être gourmand et de nous parler des bienfaits du miel pour notre peau. Enfin vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo aujourd'hui. Il sera question des zones érogènes chez les femmes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question de Fabien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. L'autre soir, on se posait la question avec des amis pendant l'apéritif. Pourquoi ça pique la gorge quand on boit du coca trop rapidement? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, pour répondre à votre question, vu que Jimmy n'était pas...
Je passe mon repas pour mentir aux auditeurs, je n'avais strictement aucune idée.
Voilà.
Une vague réponse complètement fausse, avec beaucoup de conviction, mais sans aucun argument
scientifique. Donc, on a préféré interroger un ORL, c'est le docteur Patrick Faulcon. On l'écoute.
C'est très fréquent qu'effectivement, lorsqu'on boit un soda qui peut être un peu acide, un peu frais, pétillant, ça entraîne brutalement la stimulation de plein de petits récepteurs qui sont situés au niveau de la cavité buccale et de la gorge, qui dépendent d'un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Et le fait que l'on absorbe comme ça très rapidement un produit froid, éventuellement pétillant et acide, ça va entraîner une stimulation de tous ces récepteurs d'un coup et justement engendrer cette sensation de picotement au niveau de la gorge. Ces récepteurs, en fait, entraînent des sensations, notamment lorsqu'on peut prendre des produits mentholés de façon qui sont très concentrés ou du piment. Et c'est un mécanisme un peu protecteur pour éviter d'ingérer des substances éventuellement nocives.
C'était le docteur Faulcon au micro de Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Une question pour vous vraiment, Jimmy. Cette fois, c'est la question d'Alexandra. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. On dit depuis un petit moment qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Alors ma question est peut-être un petit peu bête, mais est-ce qu'un yaourt aux fruits, ça compte? Ou un petit pois par exemple? En vrai, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Merci beaucoup.
J'adorerais qu'un petit pois, ça marche. J'en mange 5 et c'est réglé, j'ai mon quota. Alors Jimmy, justement, sur ces 5 fruits et légumes, ça fait partie des repères nutritionnels en France. Alors, si j'en mange 4 un jour, 7 le lendemain, est-ce que ça s'équilibre? Enfin, ça veut dire quoi, les 5 fruits et légumes?
En fait, ce sont des repères. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une alimentation variée et diversifiée. Le tout, c'est d'éviter les produits transformés et d'essayer de faire un peu plus la cuisine. Alors, quand on parle de 5 fruits et légumes, on parle plutôt de portion. Une portion qui fait 80 à 100 grammes. Donc ça peut être une tomate d'une taille moyenne ou une petite poignée de tomates.
C'est un très très gros petit pois, peut-être il est...
Mais non, ça ne marche pas. Il faut une poignée de petits pois ou de haricots verts. Ça peut être une pomme ou 4-5 fraises. Et il faut comprendre que l'aliment, c'est peut-être le premier des médicaments et éviter peut-être d'être malade. Et d'ailleurs, c'est bon, on en a parlé hier, pour le microbiote. Donc toutes ces bonnes bactéries qui auront un impact non seulement sur votre tube digestif, mais l'ensemble de votre santé.
Jimmy, puisqu'on est sur ces fruits et légumes, juste une petite question. On fait plutôt 3 légumes, 2 fruits, 4 fruits, 1 légume, parce que bon, les fruits, on aime souvent
plus. C'est vrai que les fruits, ça passe assez facilement. Quand même, l'idée, c'est de privilégier les légumes, même s'il n'y a pas de règle absolue. Essayez quand même d'en manger un petit peu plus que des fruits. Alors, ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être frais, ça peut être surgelé, ça peut être en conserve.
Pas yaourt aux fruits, ça ne marche pas.
Non, yaourt aux fruits, ça ne marche pas. C'est pas comme le jus de fruits. Le jus de fruits n'est pas un fruit, c'est du jus. Et donc, ça. À limiter au maximum.
Beaucoup de sucre liquide. C'est
notamment
pas bon.
Chez les enfants qui aiment bien le petit matin, là, ce petit verre de jus d'orange. Alors, de temps en temps, pourquoi pas, parce qu'il ne faut pas être psychorigide, mais c'est peut-être mieux d'éduquer les enfants à manger, à mâcher et à déglutir de vrais aliments.
Très bien. Alors, Jimmy, puisqu'on est sur les repères en termes de nutrition, alors ils ont changé il y a quelques années, justement. Pour les laitages, on parlait du yaourt aux fruits. Il ne marche pas pour les fruits, mais est-ce qu'il marche pour les yaourts? Du coup, il en faut combien par jour de laitage?
Alors, l'idéal, c'est d'avoir 2 laitages par jour, mais du coup, vous pouvez aussi le compléter avec des fromages qui sont un peu plus riches.
Ah oui, un petit fromage plein de calcium, ça peut remplacer un yaourt.
Exactement. Donc, attention aux yaourts, souvent qui sont très sucrés, notamment les yaourts aromatisés, parfois pas avec des faux arômes.
Mais pas de fruits,
donc,
pas de vrais fruits dedans.
Donc, essayez si c'est possible nature en rajoutant éventuellement un petit peu de sucre, notamment si vous n'aimez pas trop le goût, mais à limiter, puisque finalement, ce n'est pas non plus très bon pour votre santé.
Avec du miel, c'est très bon aussi. Depuis quelques années, on insiste aussi sur les produits céréaliers. C'est tous les jours, les produits céréaliers, oui.
Oui, alors c'est vrai que quand on interroge les Français, c'est dans une étude intéressante, 60% des Français n'incluent absolument pas ni les céréales, ni les légumineuses, alors qu'on devrait en avoir régulièrement, puisque c'est riche en fibres, en protéines végétales. Et donc, on devrait en avoir au moins deux fois par semaine, notamment pour les légumineuses. Alors, ça peut être des lentilles, des pois chiches, des haricots verts. C'est riche en fibres, comme je l'ai dit, en protéines végétales. Donc ça, il faut en consommer plus et ça doit servir quasiment de plat principal. On a tendance à prendre une viande et un poisson et un petit peu d'accompagnement, alors que ça devrait être l'inverse. Les légumineuses devraient prendre plus de place dans notre alimentation et la viande et le poisson un petit peu moins.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Alexandra qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le Figaro Santé. Alors on va commencer par vous, Aline Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé et vous avez donc coordonné le tout dernier numéro du magazine santé du Figaro qui vient de paraître et qui s'intitule « La fatigue, ça se guérit ». C'est une promesse ambitieuse, Aline.
Absolument.
Un magazine qui risque d'intéresser beaucoup de monde, surtout en ce moment.
On s'est permis, on s'est autorisé ce titre absolument attractif parce que finalement, il faut quand même savoir que aussi fatigué soit-on, on peut toujours faire quelque chose pour soi-même, que ce soit par notre alimentation, par nos rythmes biologiques, notre sommeil, la façon dont on mène notre vie. On peut toujours faire quelque chose et c'est ça qu'on a voulu expliquer.
Alors notre deuxième invité, c'est vous, hein, professeur François Autier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, spécialiste du syndrome de fatigue chronique, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. D'abord justement, quand on parle de fatigue tout court, hein, ce mot finalement, ça recouvre quoi ?
La fatigue, c'est un système de défense, hein, c'est un système d'alerte de l'organisme pour vous dire d'arrêter. Vous avez travaillé énormément, mais au bout d'un moment, le corps a besoin d'aller se reposer. Et donc, ce sont des mécanismes physiologiques qui vont vous alerter avec une sensation, la sensation de fatigue. Ça, je crois que tout le monde la connaît. Et cette sensation de fatigue, elle va nous obliger à arrêter, à nous reposer, éventuellement aller dormir. Et à ce moment-là, on va pouvoir récupérer.
Alors, étant donné le contexte actuel, Aline Richard, dans ce magazine très complet qui vient de sortir en kiosque, il y a un chapitre qui est consacré au Covid-19, car s'il y a bien une chose dont on est certain, eh bien c'est que c'est un virus qui est exténuant.
Il est absolument fatigant et je crois que tous les malades de la Covid-19, puisqu'il faut dire de la Covid-19, tous les malades expérimentent de la fatigue. Alors plus ou moins, selon les cas, vous savez bien que l'une des difficultés avec ce virus, c'est qu'on le découvre hein, finalement. Donc il y a effectivement des gens qui sont plus ou moins fatigués. Ça peut aller très très loin. On en parlera tout à l'heure avec le professeur Autier sur la fatigue chronique. Mais un épisode, je dirais, simple et basique de cette maladie, vous êtes extrêmement fatigué. Certains décrivent une espèce de sensation qu'ils n'ont jamais ressentie, une espèce d'accablement total. Mmh. On est obligé de se mettre au lit. Mmh. On ne peut plus rien faire.
Moi, je suis obligée de faire des siestes, ce qui ne m'arrive jamais. Je suis obligée. Voilà. Ça fait pas longtemps que j'ai eu le Covid. J'allais vous demander, professeur Autier, est-ce qu'on a une explication ? Pourquoi on se sent autant fatigué par ce virus ? Alors, j'imagine que ce n'est pas le seul qui fatigue.
Non, mais... ce n'est pas le seul qui fatigue. Si... Les virus, les infections virales, ça entraîne de la fatigue. Alors ça, on le sait depuis longtemps, hein. On parle même des fatigues post-infectieuses. C'était décrit avec la mononucléose infectieuse. On a parfois des fatigues qui durent très longtemps. On parle de syndrome de fatigue post-infectieux. Et puis, quand ça dure vraiment très longtemps, quand ça devient un état chronique, on va parler syndrome de fatigue chronique.
Au bout de 3 mois, ils sont encore fatigués. Hein.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le syndrome de fatigue post-infectieux qui est quand même extrêmement invalidant, bien sûr.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer à des patients qui vont souffrir de cette fatigue post-Covid, des semaines, voire des mois ensuite ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour essayer d'atténuer ou de limiter cette fatigue ?
Alors ça, c'est extrêmement difficile. Le traitement, moi, je trouve que la couverture, effectivement, du Figaro est très optimiste quand même, parce que alors, c'est peut-être biaisé, mon expérience.
On a envie d'être optimiste dans cette émission.
Oui, mais vous avez
raison. Figaro Santé aussi, il y a des solutions.
Comme je vous dis, c'est un peu biaisé par les
patients
que je vois.
Vous les voyez les fatigués, alors voilà.
Ceux qui sont le plus fatigués. Alors, en général, c'est sûr qu'il y a des stratégies. Par exemple, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut fractionner l'activité et varier le type d'activité qu'on fait. Parce que la répétition d'un même type d'activité, qu'il soit physique ou intellectuel, ça va accentuer la fatigue. Donc c'est une façon de biaiser, de contourner. Et puis, il y a une deuxième chose, il faut faire une réadaptation à l'effort. Quand vous avez passé 15 jours en réanimation, que vous avez été dans un état infectieux intense avec, comme on sait, on parle d'orage cytokinique, mais c'est vraiment une situation extrêmement agressive pour l'organisme, eh bien, effectivement, on va être complètement épuisé et on a besoin de se réadapter à l'effort. Mais ça, il faut le faire progressivement, très progressivement.
On va revenir à la fatigue en général. Heureusement, c'est presque les vacances pour les plus chanceux. Aline Richard, est-ce qu'une petite semaine de congé, vous en parlez un petit peu dans le Figaro Santé, pour ceux qui vont avoir la chance de prendre une semaine là, dans quelques jours, est-ce que ça peut suffire pour se reposer? Est-ce qu'il y a un endroit qui est mieux, la ville ou la campagne, par exemple, pour se reposer?
Alors écoutez, je crois qu'il faut être là, pour le coup, un peu prudent. Hein, un peu prudent et ne pas pêcher par optimisme, Béa. Alors, les vacances, c'est super, on en rêve tous, on a tous très envie de partir en vacances, mais finalement, ça peut être aussi fatigant qu'une activité de travail.
24 heures sur
vous avez les mômes, vous avez les amis, vous devez organiser les apéritifs. Donc votre hygiène de vie,
quand même d'apéro, oui, hein, c'est pas très autorisé.
Mais votre hygiène de vie n'est pas forcément optimale. Alors il y a en plus un truc terrible. Je pense notamment à ceux qui aiment bien faire du ski, là, qui vont faire du ski cet hiver. Ils se précipitent sur les pistes. Ils veulent tout faire tout de suite et c'est très très fatigant.
Et justement, est-ce que la température peut avoir une influence sur notre état de fatigue? Est-ce que lorsqu'il fait un peu plus frais, comme c'est maintenant, on peut sentir un petit coup de barre?
Les vacances d'été, elles sont plus dynamisantes,
oui,
hein,
bien
moi
sûr.
J'ai l'impression. En tout cas.
Alors après, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir, notamment, vous savez, la période automnale, c'est aussi la période des infections saisonnières, qui vont contribuer d'une certaine mesure à la fatigue. Alors c'est vrai que quand il fait très beau, on est mieux. Il y a un effet psychologique aussi qui est indiscutable avec l'allongement de la journée. Bon, ça c'est sûr. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on se repose très bien en vacances, Et ben c'est une fatigue physiologique qu'on a. Les fatigues pathologiques, on ne récupère pas pendant les vacances. Et d'ailleurs, on le voit, les patients, leur médecin va les mettre en arrêt de travail.
Mais ils n'arrivent pas à se reposer.
Mais ils restent chez eux, ils sont toujours aussi fatigués alors qu'ils restent sur le canapé.
Merci à tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau, pour cette émission en partenariat avec le Figaro Santé, vous d'abord, Aline Richard, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé spécial fatigue qui vient de paraître. Et puis en plateau avec nous également, le professeur François Autier qui est neurologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors Aline, beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûre, sont fatigués parce qu'ils dorment mal. Et dans ce numéro du Figaro Santé, il y a une incursion dans un centre à la Salpêtrière où on peut faire un bilan fatigue et sommeil. On fait quoi dans ce centre précisément?
Alors, c'est à la Pitié-Salpêtrière. En effet, c'est le service du professeur Arnufle, Isabelle Arnufle, qui est une spécialiste du sommeil et des troubles du sommeil et de l'éveil. Alors, son service est très spécialisé, hein, c'est-à-dire que viennent la voir des gens qui sont malades, en général de maladies d'origine génétique, hein, et qui ont des syndromes qui sont des syndromes très, très, très préoccupants et vraiment très difficiles à vivre. Par exemple, il y en a un qui est très connu, qui est par exemple quelqu'un qui s'endort.
La narcolepsie.
Qui s'endort brutalement. Au volant, ça peut être dramatique, mais de toute façon, c'est dramatique. Et dans ce reportage qu'on a fait faire, le reporter est allé interviewer des gens et qui racontent des histoires. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est un monsieur, la cinquantaine, qui était cadre dans l'industrie et qui devait chaque midi prendre le RER, parce qu'il n'osait pas dormir au bureau, il tombait de sommeil.
Ah oui.
Il prenait le RER jusqu'à la fin pour pouvoir, s'accorder une sieste.
Oh là là.
Donc le professeur Arnufle s'occupe de ces pathologies-là. Elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle a avec elle des neurologues, des psychologues, des physiologistes, des ORL, parce que il y a tous les cas de figure qui se présentent.
Professeur Autier, la fatigue peut avoir différentes origines, mais est-ce que c'est genré? Est-ce que les hommes sont plus fatigués ou sensibles à la fatigue que les femmes? Moi, j'ai l'impression que les femmes s'en plaignent peut-être un petit peu moins, qu'elles font avec, contrairement aux hommes qui se plaignent peut-être un peu plus.
Oui, alors c'est pas faux, mais
c'est pas tout à fait vrai.
Non, parce que dans ma patientèle, j'ai beaucoup de femmes, donc c'est un peu difficile.
Quoi, trois quarts,
oui, à peu
ouais,
près.
Ah, quand même.
Trois quarts de
ouais.
Trois quarts de
donc,
femmes.
Donc c'est pas
mais,
faux.
Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est peut-être on a peut-être une moins bonne tolérance chez les hommes et peut-être parce que les hommes, alors ça va faire totalement sexiste ce que je dis, mais ont moins l'habitude. Des tâches multiples
vrai, hein.
et alternées.
On fait beaucoup plus de choses que vous. Hein,
la charge mentale est plus importante.
Absolument.
Oui, c'est ça. Donc, il y a probablement. Et ça, c'est quand même quelque chose, comme on recommande ça aux patients, c'est vrai que spontanément, ils sont plus adaptables sur ça, alors qu'un homme a tendance à vouloir faire toujours la même chose et à s'obstiner. Ce qui est bon, c'est un peu caricatural, je sais bien.
Alors, Aline, vous souriez, hein, vous êtes d'accord avec ce que dit le docteur, il y a plus
tout
de femmes fatiguées. Dans ce numéro spécial fatigue, Figaro Santé, pardon, vous apportez bien sûr des solutions et on y découvre par exemple que l'activité physique, c'est un bon médicament contre l'épuisement. Alors, on parle hors syndrome fatigue chronique, ouais. Hein, pour les gens qui sont fatigués, pour X raisons. Bouger, c'est un médicament.
Alors oui, c'est quand même l'une, à mon sens, hein, l'une des grandes découvertes de ces dernières années pour des tas de pathologies, y compris extrêmement sérieuses, comme le cancer. Mmh. On s'aperçoit, le cancer du sein, par exemple, on s'aperçoit que faire du sport sur ordonnance, eh bien, non seulement ça améliore le bien-être personnel, la psyché, mais ça soigne réellement, ça soigne. Donc, quand on est fatigué, hors syndrome de fatigue chronique, quand on est fatigué, eh ben, il faut essayer de bouger, mais pas de le faire n'importe comment.
Quel
Parce
sport
que
il y a des sports en
problème,
particulier ouais.
Le problème en France, c'est que vous avez une mentalité, je dirais, de sport de compétition qui n'est absolument pas adapté. C'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous n'allez pas vous préparer pour un marathon.
J'irais bien nager un petit peu à la piscine, par exemple.
En revanche, bon, là, c'est un peu loupé,
c'est
hein, si je peux me permettre.
Je sais.
Mais en revanche, si vous avez une course à faire, et qu'elle est à 10 minutes de chez vous, peut-être que ça, régulièrement, ça peut vous aider.
Professeur Rottier, on parlait un petit peu d'alimentation tout à l'heure. Est-ce que dans l'assiette, il y aurait par exemple des compléments alimentaires? Est-ce que faire des cures, c'est un peu à la mode à cette période de l'année, de cures de vitamines, de magnésium, permettrait de lutter contre la fatigue?
Alors, l'alimentation joue certainement un rôle. Ça, on comprend pas encore très bien ça. Mais il est certain que, d'abord, il y a le microbiote intestinal qui est certainement très impliqué dans la genèse de la fatigue, notamment dans les fatigues chroniques. Donc ça, il commence à y avoir des travaux sur ce sujet. Et il y a un autre élément qui est important, c'est effectivement la qualité de l'alimentation. Et de manière assez empirique, on a découvert, alors ça c'est dans le cadre des syndromes de fatigue chronique, mais je pense que c'est transférable à des cas de figure beaucoup moins préoccupants, c'est que l'éviction de certains aliments a un effet bénéfique, et notamment l'éviction du gluten, que moi je préconise à tous mes patients, quasiment maintenant en première intention. C'est-à-dire ma première prescription thérapeutique, c'est d'arrêter le gluten.
Et ils sont moins fatigués.
Ah oui. Et il y en a vraiment chez qui ça marche très très bien.
Aline, sur l'alimentation, justement, vous voulez compléter peut-être. Est-ce que, après, d'utiliser des excitants, des cafés, des choses comme ça, est-ce que ça peut nous aider à être moins fatigués quand on n'a pas le syndrome de fatigue chronique, hein,
bon, écoutez, boire un petit café quand on se réveille à 6 h le matin, c'est extrêmement utile et il ne faut surtout pas s'en priver quand on aime ça et quand ça vous fait un effet.
Mais comment on met du tonus dans son assiette alors?
Après, il y a à mon sens, une hygiène alimentaire à adopter, hein, qu'on connaît bien. C'est la même pour plein de choses, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'avaler des pilules, eh bien, mangeons des fruits, mangeons des légumes, mangeons des bonnes protéines. On parlait tout à l'heure de légumineuses. Eh bien, chez moi, ce soir, il y aura des pois cassés. Et si vous adoptez une hygiène de vie en vous faisant plaisir et en faisant la cuisine, c'est une bonne voie.
Merci beaucoup à tous les deux. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 pour cette émission spéciale Fatigue en partenariat avec le Figaro Santé. Donc vous êtes rédactrice en chef, Aline Richard. Et avec nous aussi sur ce plateau, le professeur François Autier, neurologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors justement, professeur Autier, on va s'intéresser à présent à un syndrome dont vous êtes spécialiste, celui de la fatigue chronique. Pour bien comprendre de quoi on parle, comment nous patients déjà on peut se dire, tiens, c'est peut-être de ça que je souffre et ce n'est pas juste un petit coup de mousse que je vis depuis quelques semaines, moi, j'en sais rien.
Eh bien, la définition du syndrome de fatigue chronique, c'est le fait que ce soit chronique. Donc, on commence par faire peut-être une infection ou même rien. On développe une fatigue qui nous donne l'impression d'être grippé, d'être malade. Et puis, au lieu de s'arranger en quelques jours, une semaine, ça dure, ça s'installe. Et puis, progressivement, on n'arrive pas à en sortir. Et on arrive à faire de moins en moins de choses. Que ce soit des activités physiques, des activités intellectuelles, on dort mal, on se réveille fatigué. Bref, on a une vie qui est en train de se réduire de manière dramatique.
Mmh. Aline Richard, dans le Figaro Santé, vous parlez d'ailleurs de ces auto-questionnaires qui permettent de mesurer sa fatigue, des échelles de fatigue qu'on peut trouver où ?
Alors, on peut les trouver sur Internet. Je crois qu'il faut préciser une chose qui est très importante pour nos auditeurs, c'est que l'un des grands problèmes de la fatigue, qu'elle soit chronique ou pas chronique, c'est que ce n'est pas évident de la mesurer, ce n'est pas évident de la quantifier. Parce que vous dites « je suis fatigué », mais vous n'avez pas, quand vous prenez une prise de sang, il n'y a pas un indicateur, un biomarqueur sur la fatigue. Donc c'est vraiment un problème, je dirais, de fond. Qui peut très bien se résoudre avec, effectivement, ces fameux questionnaires que vous pouvez éventuellement trouver sur le net. Nous, on en publie un.
Il y en a un dans le Figaro Santé qu'on peut faire, effectivement.
Et on précise bien qu'on peut toujours le faire, mais ça n'est pas un...
Il ne faut pas l'interpréter nous-mêmes. Hein,
voilà,
ça
n'est pas un test de magazine. Si vous voulez avoir quelque chose de solide, bah vous allez voir un médecin spécialiste
avec les résultats de ce
avec
test,
les résultats qui va vous analyser. Et d'ailleurs, il y a plusieurs échelles. Le professeur Rottier va vous dire qu'il en utilise plusieurs. Et c'est vraiment important de savoir où on en est.
Professeur Rottier, justement, le syndrome de fatigue chronique en France, ça y est, c'est bon, c'est bien reconnu, parce que l'OMS le reconnaît depuis longtemps.
L'OMS le reconnaît, oui. Mais en France, c'est quand même très, très méconnu. Ça, il faut reconnaître que c'est malheureusement, ça c'est un des gros problèmes pour les patients. Syndrome de fatigue chronique, ça veut dire un peu, c'est un mi-chemin entre feignant et un peu fou. Voilà, ouais. C'est ça. Voilà,
on a fait une émission sur la fibromyalgie en début de semaine.
Si vous voulez, c'est vraiment très pénible parce que les patients qui ont une maladie et qui est très organique, parce que quand vous regardez les histoires des patients, c'est des gens qui vont très bien, qui ont une vie normale, qui ont des enfants, qui ont une vie active, un travail, qui réussissent, qui n'ont aucune raison d'être ni déprimés ni quoi que ce soit. Et un jour, assez brutalement d'ailleurs, ils deviennent malades. Et on ne leur trouve rien. Ce qui est effectivement une des caractéristiques du syndrome de fatigue chronique sur les examens conventionnels. Parce qu'effectivement, on peut faire des choses un peu plus pointues.
Et justement, est-ce qu'on a des hypothèses pour savoir pourquoi certaines personnes vont développer ce syndrome de fatigue chronique ?
Ah oui, alors bien sûr, il y a beaucoup d'hypothèses. On n'est pas encore très calé sur tous les mécanismes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement des syndromes de fatigue chronique différents. C'est-à-dire que c'est quand même un ensemble. Et l'effort qu'on fait actuellement, c'est d'essayer de stratifier, comme on dit, c'est-à-dire d'arriver à isoler des cas qui relèvent de mécanismes spécifiques. Schématiquement, on peut dire que probablement, on a une réaction immunitaire excessive qu'on a du mal à désamorcer. La réaction immunitaire, c'est ce qui se passe quand vous faites une infection. Ça, c'est ce qu'on voit très bien chez les gens qui font des syndromes justement post-infectieux, qui commencent par une infection. Ils ont du mal à désamorcer. Et donc, à ce moment-là, on va avoir un état qui ressemble à un état grippal. Pour autant, on a après, sur le long terme, un état qui est beaucoup plus apathique, où les gens ont vraiment des troubles cognitifs, des difficultés. C'est une espèce de phase où vraiment on est un aspect de dégénératif qui ne l'est pas. Et donc cette évolution du syndrome de fatigue chronique est extrêmement caractéristique.
Aline Richard, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont atteintes par ce syndrome de fatigue chronique en France ? Plutôt des hommes, des femmes ? Est-ce que ça touche éventuellement les enfants aussi ?
Ça touche absolument toutes les classes d'âge. Le problème, comme l'a rappelé le professeur Rottier, le problème, c'est que comme cette maladie organique n'est pas reconnue à sa juste incidence,
il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont ça et ils sont
absolument
chez eux.
Et donc, alors, on n'a pas de statistiques. Ouais. Et c'est un problème énorme parce que comment voulez-vous organiser une lutte contre une pathologie sans avoir une bonne idée de... On peut se dire qu'il y en a certainement des centaines de milliers, mais à part ça...
Oui. C'est ça à peu près, professeur Rottier ?
Oui, bien sûr. On a estimé que c'était entre 0,3% et 1% de la population même, générale. Ouais. Donc des études, alors ça c'est pas en France, hein, c'est des études notamment au Royaume-Uni qui ont montré ça, mais ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense.
On n'a pas le temps de détailler vraiment, oui. Mais comment on les prend en charge ces patients-là, donc atteints de syndrome de fatigue chronique? Est-ce qu'aussi il faut qu'ils fassent du sport, qu'ils bougent, ou c'est plus compliqué pour eux?
Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Parce qu'une des caractéristiques du syndrome de fatigue chronique, c'est le malaise post-effort. C'est-à-dire que dès que vous faites un effort un petit peu important, à ce moment-là, vous allez avoir une accentuation majeure des symptômes. Et ça, c'est vraiment extrêmement pénalisant pour les patients. Donc il faut au contraire éviter de tout de suite les envoyer faire des efforts. Il faut, comme je vous l'avais dit, fragmenter l'activité, c'est-à-dire et la diversifier. Arriver à changer le type d'activité sur des petites séquences avec des pauses entre, ce qui fait que vous pouvez arriver à faire un certain nombre de choses sans en avoir trop de dommages. Et puis, si vous voulez reprendre une activité physique, il faut le faire de manière extrêmement graduelle et progressive. Et à ce moment-là, c'est possible.
Et donc, il faudrait peut-être aussi des centres spécialisés où on prendra en charge de façon pluridisciplinaire ces malades.
Vous en parlez dans votre édito, dans le Figaro, dans l'interview, dans le Figaro Santé, bien sûr.
C'est un des problèmes. C'est-à-dire que vous avez des syndromes de fatigue chronique qui sont isolés, les patients n'ont que ça, puis vous avez aussi des patients avec d'autres maladies qui ont des syndromes de fatigue chronique. Par exemple, des infections chroniques comme le VIH ou l'hépatite C, vous avez certains patients qui ont un syndrome de fatigue chronique. Donc, et ceux-là, on a du mal à les prendre en charge aussi, parce qu'ils peuvent être très bien traités au plan virologique, et pourtant être toujours fatigué.
Richard, on va vous donner le mot de la fin dans ce Figaro Santé. Il y a des solutions pour les fatigués chroniques, peut-être, mais pour les autres, en tout cas tous, qui sont quand même peut-être plus nombreux quand même, plein de solutions et des choses uniquement vérifiées scientifiquement. Hein.
Oui, tout à fait. C'est notre signature au Figaro Santé, au magazine Figaro Santé. On essaye d'apporter de l'information vérifiée. Et puis, quand il y a des conseils, des bons conseils, on les publie.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier de la fatigue. Alors pour ceux qui voudraient avoir encore plus d'informations, de solutions anti-fatigue, je ne peux que vous conseiller le dernier numéro du Figaro Santé qui vient de sortir en kiosque, une mine d'infos d'avis d'experts au prix de seulement 6,90€. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence. Avec vous, Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui, vous allez nous donner un petit coup d'éclat, enfin surtout Jimmy, il en a fort besoin. Coup d'éclat pour sa peau grâce au miel.
On va se partager un petit peu de miel.
Je ne mange pas de miel.
C'est pas grave, c'est moi qui le mangerai.
Ah oui, je sais que vous adorez le miel, Mélanie. C'est vrai, c'est un antiseptique naturel, hein, puisqu'il empêche la prolifération des bactéries. Mais le miel, c'est aussi excellent pour notre peau. Hein. Ce n'est pas nouveau. Ça, on le savait déjà à l'époque des pharaons, comme le raconte Claire Lafont, créatrice d'Apicia et spécialiste des cosmétiques à base des produits de la ruche.
On sait déjà que les peuples de l'Antiquité connaissaient le miel, hein, que ce soit, comme vous le dites, en Égypte antique, en Grèce antique ou en Rome antique. Ils l'appréciaient et l'utilisaient beaucoup, puisque toutes ces civilisations considéraient en fait que le miel était un bienfait des dieux. Donc le miel était à la fois utilisé, bien sûr, dans les préparations culinaires, aussi et surtout pour ses propriétés thérapeutiques et pour ses bienfaits sur la peau. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez connu, hein, que Cléopâtre était connue pour prendre de longs bains, vous savez, de lait et de miel, pour nourrir et adoucir la peau.
Et aujourd'hui, le miel est un principe de base de la plupart de nos cosmétiques, que ce soit les crèmes, les masques ou encore les shampoings.
Mais concrètement, Benjamin, en quoi le miel agit sur notre peau? Quelles sont les vertus du miel?
Alors pour commencer, Jimmy, le miel a un pouvoir hydratant incroyable. Les molécules qui le composent sont assez petites pour rentrer dans la peau et empêcher l'évaporation de l'eau. C'est également un antioxydant, c'est-à-dire qu'il freine le vieillissement de nos cellules. Et le miel peut aussi être utilisé contre l'acné, comme l'explique la dermatologue Marie Jourdan.
Quelque part, le pouvoir antiseptique du miel va aider à la cicatrisation et au traitement de l'acné. En plus, l'acné survient potentiellement sur les peaux grasses et le pouvoir absorbant plus mécanique du miel va aussi aider, on va réguler la séborrhée et traiter les boutons. Mais si on veut utiliser le miel pour traiter l'acné, il faut savoir qu'il faudrait en mettre tous les jours en masque pendant au moins une heure.
Benjamin, est-ce qu'on peut prendre n'importe quel miel? Parce que moi, je sais que celui qu'on consomme à la maison, et on en consomme beaucoup, on y fait très attention, on le choisit avec vraiment grande précaution
et
pour
bien,
la peau.
C'est une bonne chose. Ah. Alors, ce que disent les spécialistes, c'est d'éviter le premier prix. Il faut du vrai miel, bio de préférence, et il faut le choisir en fonction de la caractéristique de sa peau. Claire Lafont est spécialiste des cosmétiques à base de miel, et selon elle, le nectar de chaque fleur butinée contient des vertus différentes.
Le miel de thym que vous avez cité, c'est effectivement le plus antiseptique et le plus antibactérien de tous les miels. Celui-ci sera vraiment indiqué pour les peaux à tendance acnéique. En revanche, par exemple, un miel d'acacia, qui est un miel très doux et riche en fructose, lui, il sera indiqué pour les peaux sensibles ou sèches. Et enfin, par exemple, pour un effet anti-âge, alors là, il faut se tourner vers des miels riches en antioxydants et notamment riches en flavonoïdes. Donc ça, vous le reconnaissez parce que ce sont des miels foncés, donc comme c'est le cas du miel de sapin ou de châtaignier.
Miel de sapin, votre préféré, Jimmy.
Oui, mais d'ailleurs, si je prends le miel qui est dans mon placard, je peux l'appliquer, comment je fais?
Alors, si dans vos placards, Jimmy, vous avez du miel, du sucre et de l'huile d'olive, c'est parfait, vous mélangez
tout, ça,
le tout.
Vous avez tout ça chez vous, hein,
oui, c'est
sûr. Huile d'olive, j'en suis sûr.
Un bon gommage pour le corps. Et puis le froid arrive, on va bientôt se retrouver avec les lèvres gercées. Et là, on va pouvoir prendre du miel et masser, et faire des petits mouvements circulaires pour faire en sorte qu'elle se dessèche moins vite, décidemment.
Et puis prenez pour un peu de miel, Benjamin, ça ira mieux pour l'addiction aussi.
Et puis pour vos mains et pieds craquelés, eh bien Pauline Dehec, autrice de Ma cosmétique minimaliste, a sa recette maison à base de miel.
Si vous avez du beurre de karité avec vous, il suffit juste de le faire fondre au bain-marie, assez doux ce beurre. Vous prenez une tasse à café de beurre de karité. Une fois que c'est fondu, vous retirez de la chauffe. Vous ajoutez une bonne cuillère à soupe de miel. Vous mélangez bien et vous placez le tout au congélateur pendant 10 minutes. Et ensuite, une fois que ça aura un peu figé, il suffit de fouetter vraiment énergiquement pour aérer la préparation, qu'elle devienne bien mousseuse. Et puis c'est prêt. Vous avez un baume cicatrisant, apaisant pour les mains et les pieds abîmés, par exemple.
Et dernière touche beauté, alors pas pour vous Jimmy, mais plus pour Mélanie, vous pouvez utiliser votre miel pour bien hydrater vos cheveux. Il suffit de le mélanger à votre soin ou votre shampoing.
Merci Benjamin. Le miel, vous pouvez peut-être l'utiliser pour faire pousser les cheveux, Jimmy, vous, c'est bien. Merci beaucoup.
C'est gratuit.
Benjamin Lévesque.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être et sexo est de retour, bien sûr, comme tous les jours. Depuis 15h, nous sommes avec vous et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, on va répondre à cette question d'Inès. Je vous la lis tout de suite. Mon copain est formidable au lit. Sexuellement, je peux dire que je suis épanouie, mais j'ai remarqué que je ne ressentais absolument rien lorsqu'il me stimulait les tétons. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter, mais j'ai peur que cela le vexe. Suis-je normale ? Alors Catherine, des femmes qui n'ont aucune sensation au niveau des seins, c'est tout à fait normal, non ? On peut la rassurer, on n'est pas tous, on n'a pas exactement tous les mêmes zones érogènes, on est d'accord ?
Absolument, et puis quand bien même toutes les zones de notre corps sont érogènes, nous n'avons pas le même investissement de ces zones-là, nous n'en faisons pas la même chose. Et donc à ce titre, eh bien, évidemment qu'on a tout à fait la liberté d'aimer certaines caresses, d'aimer certaines stimulations et pas d'autres.
Jimmy ?
Mais là, elle parle des tétons, mais elle ne parle pas des seins, c'est deux choses différentes, non ? Elle peut-être, j'en sais rien, ou...
Il veut de l'anatomie précise, là.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison.
Il y a tétons, mamelons, aréoles.
Non, mais vous avez raison. Il y a des femmes qui ont une sensibilité au niveau des tétons et pas du tout la masse du sein, le côté du sein, le galbe du sein, et d'autres, à l'inverse, qui, justement, vont préférer être caressées sur le sein alors que le mamelon sera tout à fait insensible.
C'est assez précis là pour vous, Jimmy.
Oui, non, mais vous vous moquez de moi alors que finalement la réponse, elle existe. Elle
est, vrai,
voilà,
vrai,
il y a des nuances.
Ouais, parfois, voilà, j'ai l'impression que vous posez des questions.
Et donc, il faut qu'elle puisse dire moi, c'est plutôt par là, c'est plutôt par là, ou moi, ce que j'aime, c'est plutôt ça. Parfois, c'est d'être prise très, très fermement, d'autres, au contraire, très délicatement. Donc, évidemment, chacun a expliqué ce qui correspond au plaisir. Sauf que l'homme aussi peut avoir une excitation à toucher, à stimuler particulièrement ce téton qui a dû être. Dans sa petite enfance aussi, un stimuli important, donc il cherche à le retrouver de fait.
Ah, ça casse l'ambiance. Hein. Si elle lui donne cette réponse, à mon avis, il va se calmer. Si
on
jamais...
en parle pas. On parle pas de ça.
Non. Mais du coup, parce que c'est problématique, parce qu'elle, elle n'aime pas, et vous dites que si jamais lui, ça lui procure de l'excitation, comment est-ce qu'on trouve un terrain d'entente ? Parce qu'on ne fait pas un acte qu'on n'aime pas.
Il n'y a pas que les tétons dans la vie, non ? Je sais pas, mais il y a d'autres zones.
Il n'y a pas que les tétons dans la vie, ah oui, bah, très bien. Mais vous avez sûrement raison, Mélanie.
Il devrait s'en sortir avec une autre zone.
Non, je crois que oui, effectivement, c'est toute la difficulté, c'est que nous faisons des gestes qui ne sont pas qu'à l'intention de l'autre, qui sont aussi à l'intention de nos désirs et de nos excitations. Mais ceci étant, l'autre peut être insensible, pour autant être touché, que ça puisse plaire, avoir des seins qui ne réagissent pas ou des tétons qui ne réagissent pas, mais sentir que ces mêmes tétons sont source d'excitation pour l'autre, ça peut suffire à se faire plaisir soi-même.
Mais ça dépend combien de temps il passe dessus. C'est vrai que si ça dure une heure avec elle, voilà,
et surtout
il y a ça
si,
aussi.
C'est pas mal au bout d'un moment aussi.
Mais c'est surtout s'il en attend des choses, c'est-à-dire s'il le fait, non pas tellement pour lui ou mais qu'il attend quelque chose de la part de sa compagne qui, elle, est tout à fait neutre à se toucher.
Et auquel c'est vrai cas... qu'il y a des hommes qui s'obstinent un peu parfois sur des choses qui sont pas forcément agréables. Non, je parle pas du tout de vécu. Non, il y a pas de ah oui.
On sentait le témoignage arriver.
Mais peut-être
pas. Il y a des hommes maladroits, c'est vrai qu'on n'ose pas parfois aller. Non, je parle pas de moi du tout.
Mais est-ce qu'un homme maladroit, c'est un homme à qui on n'a pas dit les choses, parce qu'on peut aussi leur reprocher beaucoup de choses, mais si derrière elle ne lui dit pas, écoute, c'est nul, je ressens rien, faut aussi.
Ou même ça m'agace, ça me fait mal.
Ou ça m'énerve, au contraire, exactement, et c'est douloureux.
Souvent, c'est par manque d'imaginaire. Donc, évidemment, qu'à partir du moment où vous ouvrez l'imaginaire de l'autre, ça lui permet évidemment de pouvoir faire d'autres choses. Si vous dites, moi, j'aime pas que tu le mordilles, mais j'aime que tu le caresses, ou j'aime que tu le souffles dessus après avoir mis de la salive parce que c'est froid et que ça, je le sens, alors que
Ou j'aime que tu n'y touches pas du tout.
Ou j'aime
te plaît.
Que tu n'y touches pas pour X raisons personnelles. Par contre, j'adore que tu touches le bas de mes reins. Ça ouvre le champ des possibilités. Dire non pour non, c'est sûr que c'est assez castrateur parce que ça renvoie à l'autre son
Donc,
incompétence.
Plus de communication, c'est ça.
Plus de communication, toujours. Mais encore une fois, pas le siffler dans la bouche. Ce n'est pas de l'autoritarisme.
Là oui, là non, attention.
Oui, non, mais d'un autre côté, un homme ne se gênerait pas pour dire, écoute, je n'aime pas ce que tu fais, je ne vois pas pourquoi elle se priverait. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette retenue
féminine,
plutôt féminine pour de vouloir satisfaire l'homme.
Vous avez tout à fait raison. C'est ce truc, j'ai peur qu'il se vexe, j'ai peur. Non, on n'a pas à avoir peur. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est faisable.
Il peut
ça
ne pas tout faire parfaitement.
Voilà. Et les femmes ne sont pas nulles parce qu'elles ne sont pas en capacité de réception de tout. C'est un petit peu comme si je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dire que je n'aimais pas un plat, je me forçais à le manger pour ne pas blesser l'autre. Donc c'est un enfer. On peut aussi dire quelles sont nos limites. Et nos limites ne disent pas la distance entre deux individus. Nos limites permettent au contraire d'ouvrir le champ des rencontres de ces deux individus. Parce que sinon, on se loupe, on fait des fausses rencontres. Ce sont des faux rendez-vous.
Donc, personne ne se force, on se parle plus, comme toujours, finalement. Hein, c'est ça.
Voilà.
Merci.
On peut le dire comme ça.
Beaucoup, Catherine. Vous avez vu, je fais des résumés maintenant de psychanalytique, sexologue.
Ouais,
tout ça.
C'est un peu rapide.
C'est
mais bon.
Cette année, Mélanie, c'est parfait.
C'est bien.
Encore 10 ans, il vous sera à mon niveau.
Allez, parfait. Merci, Catherine. Merci, Jimmy. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans son rendez-vous. Votre émission Santé, Bien-être. Tout de suite, place à Mathieu Noël et Stéphane Bern avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Vous êtes tellement simple. Vous avez su rester simple alors que d'autres ont pris la grosse tête.
Oui, mais elle s'appelle Mélanie, elle s'appelle pas Maria.
Et exactement. Aujourd'hui, notre thème du jour,
c'est les Marias, toutes des divas.
C'est vrai que historiquement, on a regardé avec Stéphane et on s'est aperçu que la plupart des Marias étaient devenues des divas.
Oui. Maria Malibran, la Malibran, Maria Callas. Oui, et vous avez choisi Maria Carré.
Elle est diva par la voix, mais aussi par ses caprices, surtout. Oui. Maria Carré, oui.
J'adore ce que vous allez me raconter.
Oui, vous n'avez pas idée.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.